Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Dans cette émission portrait, nous nous sommes déjà intéressés à deux des frères de Napoléon, Joseph et Jérôme. Dans les deux cas, nous avions vu que le regard porté par la postérité était sans concession. Alors que l'un était jugé faible et paresseux, l'autre endossait l'image réductrice d'un séducteur dépensier. En fait, l'inconséquence politique de la famille impériale est un thème récurrent de l'histoire napoléonienne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Louis Bonaparte, frère préféré de Napoléon dans sa jeunesse. Il se voit confier en 1806 le royaume de Hollande. 4 ans plus tard, brouillé avec son auguste frère, il est contraint à l'abdication. Depuis, l'historiographie française véhicule l'image d'un roi capricieux, peu sûr de lui, rongé par la mélancolie. Annie Jourdan, notre invitée d'aujourd'hui, assure la direction d'une biographie consacrée à Louis Bonaparte, roi de Hollande, publiée chez Nouveau Monde Éditions. En présentant le regard croisé d'historiens hollandais, cet ouvrage fait apparaître un Louis très Bonaparte, c'est-à-dire autoritaire et entreprenant, mais aussi un Louis humaniste, attentif au sort de ses sujets. Dans cette émission, nous allons donc nous pencher avec Annie Jourdan sur le règne de Louis Bonaparte, épisode de sa vie qui mérite d'être valorisé. Annie Jourdan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes professeur associé à l'Université d'Amsterdam, études européennes. Vous êtes aussi habilité en histoire moderne et contemporaine. Et spécialiste du Premier Empire, vous avez publié, entre autres, Napoléon, héros, impérator, mécène en 1998 et en 2004, Mythes et légendes de Napoléon chez Aubier. Alors revenons à Louis-Napoléon Bonaparte et à son royaume de Hollande. Voyons dans un premier temps comment s'établit la monarchie en Hollande. Il s'agit pour les Hollandais d'un changement considérable puisqu'ils étaient très fiers d'être républicains, très attachés à leur république. Mais finalement, Napoléon ne leur laisse pas beaucoup le choix puisqu'ils ont le choix entre la monarchie avec Louis ou l'intégration à la France. Et dans ces cas-là, Louis semble donc commettre un moindre mal. Mais quelles sont les intentions de Napoléon en plaçant Louis sur le trône de Hollande ?
Oui, en fait, il y a deux questions dans ce que vous me demandez. Je commence par la seconde, en effet. Les intentions de Napoléon, c'est de s'assurer du soutien de sa famille dans divers royaumes, dans les royaumes frères, pour essayer de vaincre l'Angleterre. Donc, il s'attend au soutien de Louis contre les Anglais. Et ce qu'il veut, c'est un roi préfet, en fait, un roi intendant. Un Louis qui agirait pour la France, mais dans le nouveau royaume de Hollande. Le deuxième point que vous abordez en premier, c'est le fait que la République des Provinces-Unies, qui était vieille de 2 siècles, va être abolie, détruite par l'instauration du royaume de Hollande. Et donc, les Hollandais n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de recevoir un roi. Mais bon, entre les deux solutions, être avalé par le Grand Empire ou bien accepter un roi d'origine française ou corse, c'était un moindre mal, disons.
La tâche va-t-elle s'avérer facile pour Louis d'installer la monarchie ? Comment va-t-il s'y prendre ?
C'est assez amusant de voir, j'ai un petit peu préparé, parce que je suis comme les étudiants, une fois qu'un livre est terminé, on oublie ce qu'on a écrit. Et en réfléchissant sur ce que nous avons publié, je me suis aperçu que la façon dont il crée sa monarchie est tout à fait progressive. Mais tout d'abord, ce qui l'intéresse au premier plan, c'est les emblèmes du pouvoir. C'est-à-dire, il veut créer un ordre de chevalerie, un ordre royal du royaume de Hollande, dès juillet 1806. C'est-à-dire, ça fait un mois qu'il est en Hollande, il veut déjà créer un ordre royal. En fait, il voudrait être couronné, il exige d'être couronné pour que cela affermisse sa légitimité, et il se préoccupe au plus haut point de son trône et de son carrosse. Ce sont les premières mesures qu'il prend, donc c'est vraiment les emblèmes de pouvoir, oui, figurés dans l'espace public avec des symboles de pouvoir. Mais Napoléon va lui refuser le couronnement. Par contre, il accepte bien sûr qu'il se fasse faire un trône et un carrosse.
En fait, en aucun cas, lorsque Louis monte sur le trône de Hollande, il ne va chercher un compromis avec l'ancien républicanisme.
Oui, c'est assez étonnant, et c'est ce que remarque un des auteurs, Fellemin. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse un compromis. Napoléon le fait, le compromis, parce que Napoléon donne à son frère une constitution, et c'est la constitution de 1805, c'est-à-dire une constitution où c'est seulement l'exécutif qui change. Au lieu d'un grand pensionnaire, on a un roi. Or, ce que veut Louis, c'est... Il veut une monarchie constitutionnelle, donc avec une constitution fixe pour parer à l'arbitraire et pour rallier ses sujets. Mais il veut vraiment régner en tant que roi. C'est-à-dire qu'il veut que le corps législatif ait beaucoup moins de pouvoir, ce que Napoléon n'avait pas prévu. Donc en 1806, déjà, il modifie la constitution que lui avait donnée Napoléon et il amenuise les pouvoirs du législatif. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire de concessions, en effet. Il fait quelques concessions à ses sujets, mais pas dans le sens du républicanisme. Il fait des concessions dans le sens où il discute de ses projets avec son Conseil d'État. Donc il n'impose pas ses lois comme ça, mais il en discute avec son Conseil d'État et avec ses ministres, parce qu'il veut malgré tout être un roi national. Il veut être un roi accepté de ses sujets.
Donc on voit un Louis très attaché à ses attributs royaux. De leur côté, les Néerlandais, qu'attendent-ils de cette nouvelle royauté ?
Mais au début, ils sont pétrifiés d'horreur. Et puis, en quelques mois, ils s'aperçoivent que le roi peut mettre fin à leur dissension intestine, parce que le pays avait toujours été déchiré entre deux camps, les partisans des États et les partisans du prince d'Orange. Et ces divisions, ces déchirements, s'étaient perpétués sous la République batave, sous la Révolution batave. Il y avait toujours donc des heurts entre les deux parties. Et Louis a le talent de prendre à son service, parmi les ministres, des révolutionnaires et des orangistes, d'œuvrer vraiment à la réconciliation nationale. Donc c'est ce qui facilite l'introduction de la monarchie dans cette ancienne République, qui était oligarchique en plus. Donc l'oligarchie disparaît quasiment, elle est remplacée par un genre de noblesse constitutionnelle ou de patriciat constitutionnel, sans aucun privilège pour le reste.
Donc finalement, les Néerlandais adhèrent au système de Louis.
Oui, c'est assez étonnant, puisqu'en effet, en 1806, à son arrivée, il y avait malgré tout quelques rébellions, quelques insurrections, notamment d'une jeune femme. La plus rebelle à la monarchie et à l'Empire ensuite, c'est une jeune femme qui s'appelle Maria Lossoff. Assez amusant.
Vous disiez à l'instant que Louis voulait être un monarque national. Comment s'y prend-il pour ça ?
Oui, comment devenir une majesté nationale ? C'est ainsi qu'il l'appelle. Il veut être une majesté nationale. Il essaie d'y parvenir en essayant de réconcilier les partis, mais aussi en mettant en œuvre des lois, et notamment dans sa politique culturelle peut-être. Il essaie d'établir des institutions nationales. Donc le premier stade, c'était les attributs du pouvoir, mais au deuxième stade, il s'intéresse, il fait faire des rapports sur tout ce qui concerne le pays, que ce soit l'agriculture, le commerce, les digues, etc. Et il essaie de mettre en œuvre des institutions qui soient nationales. Parce que le pays est une ancienne fédération. Et ce qu'il veut, c'est créer un État centralisé. Et là, en fait, il poursuit l'œuvre de la République batave. Mais il va l'achever, si vous voulez. Il l'achève en un sens, parce que le fédéralisme hollandais était presque immortel, difficilement...
Destructible.
Destructible, pardon.
Il est étonnant de voir que dans sa volonté de, en effet, de vouloir créer une monarchie nationale avec ses propres institutions, il a attaché tout de suite beaucoup d'importance à l'armée, mais donc au détriment totalement de la marine.
Oui, ça c'est assez étrange. Parce que Napoléon s'attendait à ce que son frère restaure la marine dont il avait besoin, puisque Trafalgar avait eu lieu en 1805. Donc Napoléon avait vraiment besoin d'une marine hollandaise énergique et forte. Or, Louis s'intéresse seulement à l'armée.
Il s'y intéresse en plus, surtout aux uniformes de l'armée finalement.
Oui, oui, c'est un militaire très peu belliqueux en fait. Parce que c'est le seul frère de Napoléon qui est militaire de formation. On l'oublie quelquefois. C'est pour ça qu'il était devenu grand connétable. Il avait été proclamé grand connétable par Napoléon. Mais en fait, il déteste la guerre. Il a été blessé plusieurs fois, il était choqué par le sang, la vue du sang. C'est un homme très sensible, en fait, et qui avait été blessé, qui était tombé de cheval une fois, et qui s'était blessé aussi au visage. Donc, il aimait très peu la guerre. Il aurait préféré en fait être écrivain, comme la plupart des Bonaparte.
Mais Napoléon ne l'a pas entendu de cette oreille.
Non, Napoléon l'a en fait contraint à continuer à faire la guerre, à partir en Égypte avec lui, malgré sa répugnance croissante vraiment à faire la guerre.
Alors nous allons aborder maintenant dans l'émission un sujet justement de friction entre les deux frères et qui va être sans doute la cause de la fin du royaume de Hollande. C'est le blocus continental et là finalement c'est la première fois que Louis s'oppose à Napoléon. Alors, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs quels sont les principes de ce blocus continental ?
Le blocus continental a été proclamé en novembre 1806 et l'idée, c'était de fermer toutes les frontières de l'Europe continentale aux produits anglais, produits britanniques. En effet, je pense que c'est une des causes de la chute de Napoléon, même, puisque ça l'a entraîné à faire la guerre d'Espagne en 1808, à envahir le Portugal, etc. Et donc, il attendait de ses frères qu'ils appliquent ce blocus. Mais appliquer le blocus, donc fermer les frontières aux produits anglais entre la Hollande et l'Angleterre, c'était quasiment impossible. Parce que le pays est parsemé d'îles, de rivières, de canaux, de fleuves. Donc il était très difficile d'empêcher les produits d'entrer. Et Louis a essayé d'appliquer le blocus. Mais il s'est aperçu que s'il applique le blocus sévèrement, il ruinait ses sujets. Puisque la Hollande était un pays commerçant et marchand, à cause du blocus, il était presque impossible de restaurer la marine, parce qu'il n'y avait pas les matériaux. Il fallait que les matériaux puissent venir, rentrer. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc Louis a appliqué le blocus.
A essayé de l'appliquer.
Il a essayé de l'appliquer, mais les services étaient mal coordonnés, puisque les douanes étaient entre les mains du ministère des Finances et du ministère de la Justice, c'est-à-dire que tous les deux étaient rivaux. Il n'a pas réussi, dans ces 4 années, il n'a pas réussi à créer une direction des douanes qui soit vraiment propre à cela. Qui plus est, il y avait de la corruption. Les douaniers, même les douaniers français, se laissaient corrompre. Quand on voit que pour laisser passer un convoi, on pouvait avoir 40 000 florins, alors que ces gens-là en gagnaient peut-être 1 000 par an, on comprend que la corruption était vaste et étendue.
Alors malgré les efforts de Louis, donc ce blocus continental ne va pas fonctionner en Hollande. Et là où peut-être que les relations entre Napoléon et Louis vont être particulièrement difficiles, c'est que Louis va toujours essayer d'obtenir de Napoléon des arrangements et Napoléon sera toujours extrêmement sévère, alors qu'après, Napoléon va s'adresser à Louis, dans certains cas, pour faire passer un navire diplomatique, entre autres, en Angleterre. Quand il s'agissait des intérêts de la France, Napoléon était prêt à certaines...
Non, c'est pire même, parce que Napoléon lui-même accordait des permis à des marchands français ou à des marchands américains qui venaient en France, il refusait les permis à la Hollande. Donc en fait, Louis appliquait les mêmes mesures que son frère, mais il y avait un genre d'inégalité entre la façon dont était traitée la Hollande et la façon dont était traitée la France. Et qui plus est, en effet, Napoléon voulait avoir la presse anglaise, il voulait envoyer des agents diplomatiques en Angleterre, donc il a plus d'une fois fait des exceptions à son blocus. Mais Louis, et Louis aussi, malgré tout. L'embêtant, c'est que Louis avait un surveillant sur place, c'était l'ambassadeur de France, La Rochefoucauld, qui était à La Haye ou à Amsterdam, et qui signalait à Napoléon chaque fois que Louis faisait une infraction au blocus, parce qu'il laissait rentrer des neutres. Les neutres, c'était les Américains, la plupart du temps, pour soulager son peuple.
Donc ça déclenchait des colères de Napoléon ?
Oui, il y a eu vraiment un bras de fer, je pense, de 1807 à 1810, entre les deux, parce que chaque fois que Napoléon se mettait en colère et introduisait des lois très sévères, par exemple l'interdiction d'introduire des produits hollandais en France, Louis appliquait le blocus. Mais dès que Napoléon était en guerre, Louis relâchait les règles, et Napoléon se mettait en colère, donc Louis appliquait les règles à la lettre. Et puis, dès que Napoléon s'était calmé, Louis, de nouveau, relâchait les rênes. C'est assez amusant.
Mais finalement, Louis était vraiment coincé entre les intérêts de son pays et les demandes de Napoléon.
Mais Louis a pris vraiment son pacte à la lettre. Le pacte entre son peuple et lui-même, il voulait le respecter. Et il s'est vraiment pris pour le roi de Hollande, ce qui est une erreur énorme, bien sûr. Et il voulait respecter le pacte avec ses sujets, ce qui veut dire qu'il était obligé de désobéir à Napoléon. Il était vraiment dans un dilemme classique, antique. Il ne pouvait pas être roi de Hollande et frère de Napoléon. Il ne pouvait pas être frère de Napoléon et roi de Hollande. Enfin, c'était... Mais il a tenu.
Cornélien.
Bon. Oui, Cornélien, voilà.
Finalement, Louis va être attaché à un autre aspect de sa monarchie, c'est qu'il va vouloir être un souverain humaniste, et c'est ce que je vous propose de voir après une courte pause. Merci.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Merci d'être toujours à l'écoute de Canal Academy. Alors voyons donc, Louis, roi de Hollande, est philanthrope. Il s'est attaché donc au bien de ses sujets en général, et entre autres via l'enseignement. Lorsqu'il s'est installé en Hollande, l'enseignement primaire avait été largement
réformé
par la République batave, et Louis va attacher beaucoup d'importance à cette réforme et va l'appliquer.
Oui, le talent de Louis dans le domaine de l'école primaire, c'est pas tellement qu'il ait révolutionné le système, mais qu'il ait perpétué, qu'il ait conservé. Ce qui fait que le système s'est vraiment imposé. Et en 1813, il n'était plus question de le supprimer. Et ce système était égalitaire. Il ressemble en fait à ce que voulaient faire les Français à l'époque de Condorcet, c'est-à-dire l'école primaire gratuite pour tous les enfants, les pauvres, les riches. Et c'était une école primaire contrôlée par des inspecteurs. Ce sont les premiers inspecteurs scolaires qu'il y a eu en Europe, avec des manuels uniformes. Donc de nouveau, ça allait dans le sens de la centralisation et de la nationalisation. Et des locaux aérés. En effet, il y a deux points qui sont très importants au XVIIIe et au début du XIXe siècle. C'est l'attention pour les enquêtes, les statistiques. Et le deuxième point, c'est l'hygiène publique. Et la famille Bonaparte était, parce que Napoléon aussi, la famille Bonaparte était vraiment préoccupée par l'hygiène publique et la santé publique. Et Louis en particulier, puisqu'il était assez maladif, quasiment infirme, il avait du rhumatisme. Il était persuadé que l'air et l'eau devaient circuler. Donc les écoles primaires étaient bien aérées, bien propres. La nourriture était également surveillée. Louis s'intéressait beaucoup au régime des enfants, également de ses propres enfants, plus que Hortense. Et donc il a vraiment fait en sorte que les villes hollandaises soient plus salubres.
Oui, il intervient aussi beaucoup au niveau de la santé publique.
Oui, également ça a un rapport avec sa propre vie.
Oui, puisqu'une des choses qu'on n'a pas mentionnées et qui lui a été très critiquée lors de son passage en Hollande, c'est qu'il déménagea énormément. Il changea 3 fois de capitale en 4 ans de règne. Et c'était souvent lié justement à sa recherche d'air et d'eau circulant.
Oui, l'idée de la salubrité publique, ça a été inspiré également par le sort qui a été fait à son fils aîné. Son fils aîné est mort d'une maladie à La Haye. Et Louis était persuadé que ça venait de...
De l'insalubrité des lieux.
Oui, voilà, parce que les canaux en Hollande étaient malsains. L'eau ne circulait pas, donc il y avait des vapeurs nauséabondes. Et c'est ce qui a encouragé Louis donc, à s'occuper de la salubrité publique.
Et à changer donc de...
Et oui, et à déménager. Donc tout cela a un rapport en fait avec la mort de son fils aîné.
Voilà, son fils aîné est mort à La Haye en 1807, donc il décide de quitter La Haye pour Utrecht.
Oui, mais Utrecht n'a pas la dimension d'une capitale. Et l'air n'est pas plus sain qu'à Amsterdam. Donc, il met tout en œuvre pour faire réaliser un grand palais à Utrecht. Mais quelques mois plus tard, il change d'avis et s'installe dans l'ancienne mairie d'Amsterdam qui est sur le Dam, qui est encore un palais royal d'ailleurs. Depuis, c'est Louis qui en a fait un palais royal. C'était une municipalité du XVIIe siècle.
Et là, il ne va pas hésiter à raser un bâtiment qui se trouve juste devant ce palais pour justement avoir une vue dégagée et avoir de l'air.
Oui, donc il a rasé le poids public au grand scandale des habitants qui ne voulaient pas le voir disparaître. Et il a aménagé la municipalité. Mais bon, c'était une solution quand même provisoire parce que le palais était obscur, il était triste. Dans la chambre d'Hortense, il y avait des têtes de mort. À l'origine, les caves, c'était des prisons. La banque d'Amsterdam est des prisons. Donc, ce n'était pas vraiment un palais fait pour un roi à la française, disons. Donc, son idée, c'était de faire construire un vrai palais royal, encore mieux aéré, plus riche, plus confortable, surtout.
Les historiens ont retenu l'image d'un Louis instable et peu sûr de lui. Qu'en pensez-vous ?
Je me suis demandé, en écrivant la conclusion, si mes collègues avaient raison. Parce qu'en effet, il est décrit dans la plupart des articles comme un homme qui change d'avis. Il change de ministre, il change de décoration, il change de...
De palais.
De palais. De résidence secondaire, puisqu'il en avait 4, et aucune ne lui plaisait vraiment. Il n'y en avait aucune qui était adaptée à sa santé, à son physique, etc. Et dans ce sens, on pourrait dire qu'il était instable. Mais bon, il avait une idée en tête. Et de ce point de vue, il n'était pas instable. Il voulait être un vrai roi de Hollande. Et il a essayé, il a fait de son mieux pour le devenir. Il a essayé des réformes, mais quand les réformes se sont avérées néfastes, il est revenu à sa première idée. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler d'instabilité. C'était un jeune homme, il devait avoir dans les 25 ans. Je suis très mauvaise en chronologie et en date. Mais bon, c'était un jeune homme, donc il me semble qu'il faut retourner les remarques et dire qu'au contraire, c'est étonnant qu'un jeune homme qui était un simple militaire rousseauiste de surcroît ait réussi à apprivoiser les Hollandais, les républicains hollandais, et à imposer sa monarchie.
Dans l'histoire hollandaise, la parenthèse du royaume de Louis semble largement oubliée. La Hollande, pourtant, n'a-t-elle pas été marquée par le passage de Louis ?
Beaucoup de choses sont oubliées dans l'histoire hollandaise. C'est ce dont je m'aperçois de plus en plus. Les Hollandais ont oublié qu'ils ont eu des révolutions, des patriotes. Quand on lit l'histoire hollandaise, on a l'impression qu'il y a une grande continuité, ce qui va bien sûr dans le sens du nationalisme, disons. Et cette grande continuité, ça serait la famille d'Orange. Donc la famille d'Orange n'a jamais voulu mettre en avant les acquis qu'elle doit à Louis Bonaparte. Et en 1813, quand le prince d'Orange est revenu, il a voulu mettre en œuvre une politique de pardon et d'oubli. Et bien sûr, cette politique de pardon et d'oubli a permis aussi d'oublier Louis Bonaparte, roi de Hollande. Pourtant, la monarchie de Guillaume Ier lui doit beaucoup, ne serait-ce que la monarchie, puisque c'est Louis qui a vraiment apprivoisé l'idée de monarchie en Hollande. Sans Louis, je ne pense pas qu'un prince d'Orange serait devenu roi des Pays-Bas réunis. Et ce que lui doit aussi Guillaume Ier, c'est un début de centralisation, de nationalisation, mais aussi tous les codes, la codification qu'avait imposé Louis et qu'a réimposé en 1810 Napoléon. Donc tout ce qui est moderne dans cette monarchie de 1813-1815, tout cela vient de Louis Bonaparte et des révolutions. De ce point de vue, d'ailleurs, Napoléon et ses frères continuent l'œuvre de la Révolution, que ce soit la codification civile ou la codification pénale ou judiciaire.
Merci infiniment, Annie Jourdan. Nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que nos auditeurs auront désormais une image moins négative de Louis Bonaparte. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Louis Bonaparte, roi de Hollande, chez Nouveau Monde Éditions. Au revoir et à tous et à toutes.